En 2015, pour les 20 ans du parc, une autre vie s'invente ici.
Portrait d'acteur du territoire.
Depuis près de 30 ans, Gaston Mercier est sellier. Il conçoit et fabrique tout type de sel pour les chevaux. Il est installé au Mas de Vinaigre, sur la commune de Saint-Léon-du-Lévézou. C'est là que nous l'avons rencontré. Gaston Mercier, vous êtes concepteur fabricant de sel ici au Mas de Vinaigre sur la commune de Saint-Léon. Auparavant, vous avez été éleveur, cavalier professionnel, guide randonneur et compétiteur en endurance. Alors, je rappelle que vous avez été champion de France et à deux reprises champion d'Europe en 87 et 89. À quel moment avez-vous fait le passage à la fabrication de sel et pour quelles raisons ?
Alors la fabrication de sel, en fait, elle est venue assez rapidement puisque j'étais cavalier avant d'être sellier et je me suis fait tout simplement le matériel dont j'avais besoin et que je ne trouvais pas sur le marché parce que il n'y avait rien qui correspondait vraiment. On utilisait surtout pour l'équitation que je faisais à cette époque-là, c'est-à-dire l'équitation d'extérieur notamment, la rando, on utilisait beaucoup des sels de l'armée qui était d'abord d'un certain âge et en même temps pas vraiment adapté à une équitation plus sportive et plus moderne. Donc je m'y suis mis, quoi. Je me suis mis à travailler le cuir, à apprendre à coudre. Il faut dire que, issu de Millau, le cuir, ça ne m'est pas totalement étranger quand même, hein. Mon père était gantier. Et du coup, j'étais baigné dans ce matériau qui est une véritable passion pour moi. Et donc, j'ai étudié d'abord ce qui se faisait. J'ai démonté des vieilles selles, des selles plus récentes. Et j'ai essayé de trouver surtout un concept et des matériaux qui puissent s'adapter à l'équitation d'aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que vous reprochiez à ces selles traditionnelles et qu'est-ce que vous recherchiez exactement dans ce qui était pour vous la selle idéale, en quelque sorte ?
Oui, effectivement, j'avais beaucoup de reproches à faire à ces selles de l'armée, notamment, qui ont eu évidemment leur qualité à leur temps, mais qui étaient d'abord très lourdes, ensuite sans la moindre idée de confort ni pour le cavalier, un peu pour le cheval parce qu'il fallait les blesser le moins possible, mais les cavaliers, quand ils étaient enrôlés dans l'armée, on ne leur demandait pas si le soir ils avaient mal aux fesses ou s'ils étaient fatigués. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est d'étudier un peu toutes les positions des selles utilisées dans le monde entier et notamment des selles de travail. Et je me suis rendu compte que toutes ces selles avaient un point commun, c'est que par rapport aux selles plus récentes qui existaient pour notamment le saut d'obstacle, qui était quand même déjà en vigueur, hein, parce que je suis du siècle dernier, mais pas non plus, ça ne remonte pas très très loin, quoi. Donc il y avait des selles d'obstacle qui étaient des selles modernes, mais qui positionnaient, à mon avis, beaucoup trop sur l'avant-main du cheval. Donc ma principale préoccupation, ça a été de repositionner le cavalier, de le reculer sur le dos du cheval et de le mettre à peu près dans une position d'une selle de travail. C'est-à-dire, aujourd'hui, on l'a un peu mieux identifié, c'est la 12e et 13e dorsale, voilà.
Donc, repositionner le cavalier au bon endroit. Comment est-ce qu'on fait ça en partant d'une selle traditionnelle ? Est-ce que ça veut dire que vous avez réalisé, en quelque sorte, un mixage entre la selle de travail et la selle de monte traditionnelle ?
Absolument. J'ai vraiment réalisé. Alors, comment je l'ai fait, c'était pas très académique. Hein. J'ai commencé à la truelle et à la tronçonneuse, hein, en fait. Après, j'ai essayé d'habiller tout ça de cuir. Mais ce qui compte dans une selle, c'est ce qui se trouve à l'intérieur, qu'on appelle l'arçon, qui est en fait l'ossature de la selle. C'est à partir de cet arçon-là qu'on obtient la bonne position ou la mauvaise position du cavalier. Donc, si vous voulez, j'ai beaucoup travaillé sur ça et j'ai commencé à travailler avec des matériaux modernes et notamment du composite polyester et ensuite on est passé à des matériaux encore plus modernes. Mais là, c'était vraiment de la découverte. Hein. Donc, j'y suis allé à petits pas et d'une manière tout à fait empirique.
Donc au départ, vous avez fabriqué vos propres gabarits. Ils étaient dans quelle matière? Comment vous avez fait? C'est par modelage, par sculpture?
Ah oui, j'ai commencé à travailler avec une très vieille selle d'origine mexicaine, donc de travail, une selle de cow-boy en quelque sorte, que j'ai rognée, coupée, aménagée pour qu'elle soit un peu plus confortable pour le cheval et surtout pour encore aménager la position du cavalier pour qu'il soit lui aussi dans une position qui lui permette de tenir très longtemps à cheval sans se fatiguer. J'ai encore ce premier travail. Évidemment, ça ressemble à rien. Hein. C'était vraiment... Il fallait oser. Après, il s'est trouvé que, en même temps que je faisais ça et que je réalisais mes premières selles, il s'est trouvé qu'il y a eu un premier vétérinaire qui est devenu ostéopathe équin, le docteur Gignot, qui a écrit des bouquins là-dessus. C'est lui qui a inventé l'ostéopathie équine. Et qui a donc avec qui j'ai eu un contact et qui m'a dit mais vous êtes exactement à l'endroit où il faut être sur un cheval, voilà. C'est un coup de chance. Hein.
Gaston Mercier, ces premières ébauches, elles remontent à quand exactement?
Alors ça, c'était dans les années fin 70, on va dire, fin 70, début 80, quoi. Mais ça a duré assez longtemps. Hein. C'était des ébauches. Et comme je les faisais les unes après les autres, et à la main, tout cousu à la main et tout, c'est très compliqué parce qu'en fait, vous pouvez vous rendre compte que la selle est bonne quand vous êtes assis dessus et que vous dites ah ben, tout va bien. Mais si tout ne va pas bien, ben, on recommence. Hein. Et chaque fois, je repartais, je remodelais l'arçon, je repartais sur un habillage cuir, etc. Donc ça a duré plusieurs années avant d'aboutir, d'avoir un produit abouti. Et à partir de là, évidemment, une autre expérience a commencé.
Alors, cette première selle, c'est une selle personnelle, pour votre usage personnel. Et comment, à partir de là, est-ce qu'on a l'idée, l'envie de diffuser son travail?
Alors ça, c'est un concours de circonstances, si vous voulez. En même temps que j'avais réalisé ce premier modèle qui, finalement, me convenait, j'ai attaqué la compétition d'endurance qui arrivait en France, puisque ça nous arrivait direct des États-Unis. J'ai fait la première course qui s'est déroulée notamment dans l'Aveyron. C'était les 100 km de Rodez dans les années 76, je crois. J'ai donc fait ces 100 km. J'ai découvert en fait une discipline qui m'a beaucoup plu. Et quelques années après, j'ai réussi à avoir quelques médailles, on va dire, hein, puisque vous les avez rappelées tout à l'heure. Donc, à partir de ces médailles-là, je suis allé voir un constructeur de selle, un fabricant, carrément, avec mon prototype sous le bras. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais fabriquer, que vous me fabriquez ces selles-là. Bon, ça a été un peu compliqué parce qu'il n'était pas du tout dans ce domaine. Il a été assez rapidement convaincu quand même. Donc j'ai commencé avec Bruno Delgrange, qui est encore aujourd'hui un des meilleurs selliers français dans la région parisienne. Et puis ça s'est enchaîné, je suis passé chez un autre, etc. Et jusqu'au jour où j'ai décidé que j'étais pas satisfait par la fabrication des autres, donc j'ai fait la mienne.
Qu'est-ce que vous recherchiez de précis en passant cette nouvelle étape, c'est-à-dire en souhaitant fabriquer vous-même vos selles?
Ah ben, j'étais persuadé, moi, à ce moment-là, que l'endurance qui débutait allait être une discipline d'avenir, avec un marché, évidemment. Et comme il n'y avait absolument personne sur ce marché, ben, j'ai pensé que je pouvais me positionner en tant que fabricant et concepteur. Ou concepteur et fabricant, plutôt.
Et alors, est-ce que l'activité a démarré ici, au Mas de Vinaigre, ou comment s'est fait le développement un peu de l'entreprise ?
Elle a démarré dans la cave du Mas de Vinaigre. Je m'étais fait un petit atelier vraiment dans une pièce. Bon, le Mas de Vinaigre, vous avez vu, c'est très grand. Hein, il y a de la place pour tout. Et je m'étais fait une pièce, une espèce de petit atelier. Et ça a démarré là, absolument. Ouais, ouais. Et les premières selles que j'ai vendues, elles ont été fabriquées ici. Bon, après, elles ont été fabriquées par les autres. C'était en sous-traitance, si vous voulez. Mais j'ai pas été satisfait du tout. C'est pas parce qu'ils savaient pas fabriquer des selles, c'est parce que j'arrivais pas à maîtriser absolument la fabrication, quoi. Donc il a fallu, je suis un peu têtu, hein, sur les bords, et donc il a fallu que je monte mon affaire à moi. Alors là, c'était encore une autre époque, très compliquée aussi.
Donc c'est ça, en fait, c'était le souhait de pouvoir maîtriser toutes les étapes, tout le process de fabrication du début, donc de la conception jusqu'à la vente au client, finalement.
Oui, il y a ça, le fait de pouvoir maîtriser, mais il y a aussi le fait de créer des produits qui n'existaient pas, ou qui du moins étaient inspirés de ce qui existait, mais avec une conception beaucoup plus récente. Et tous les accessoires qui vont autour de la selle, les tapis, les sangles, enfin tout ce qui, même y compris la bagagerie, tout ça, comme j'avais été d'abord utilisateur, je connaissais les travers de tout ça, et j'ai essayé d'aller au mieux.
Gaston Mercier, le développement de l'entreprise, donc vous avez démarré là dans la cave, comme vous nous disiez, mais bon, aujourd'hui c'est plus du tout ça. Il y a un grand showroom, des ateliers, bon, des chevaux pas loin aussi. Comment ça s'est fait, ça? Quelles ont été les étapes dans la progression de l'entreprise?
Ça s'est fait là aussi très, très progressivement, hein, c'est-à-dire que d'abord, il a fallu former les gens qui ont commencé à travailler avec moi. J'ai commencé les premières selles véritablement de la société actuelle. Elles ont été donc conçues par moi, mais fabriquées par un monsieur qui était bottier de son métier, donc qui connaissait parfaitement le cuir et la fabrication, mais qui était passé lié. Et c'était d'autant plus intéressant pour moi qu'il n'était pas formaté, en fait, et que j'ai pu lui faire absolument ce que je voulais. Mais donc ça a été mon premier employé, si vous voulez. Et ensuite, lui en a formé d'autres, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui.
Je vais revenir un petit peu à la partie technique de votre production. Vous nous avez parlé tout à l'heure du confort du cavalier, du confort du cheval. J'aimerais bien savoir en quoi est-ce que le type de selle que vous produisez facilite le travail du cheval.
Alors en fait, le fait de positionner le cavalier sur la 12e et 13e dorsale, on dégage l'avant-main du cheval, il va se trouver dans son meilleur équilibre, parce que porter du poids pour lui, ce n'est pas naturel. Hein, porter un cavalier de 70, 80, voire plus, c'est pas naturel. Au début, les jeunes chevaux, d'ailleurs, quand on monte sur un jeune cheval, il est un petit peu empêtré dans ses allures, parce que tout d'un coup, ça, il faut qu'il retrouve un équilibre avec un poids sur le dos. Plus on charge l'avant-main du cheval, et plus cet équilibre est difficile à trouver. Et je ne sais pas pourquoi... Si vous voulez, on pourrait se demander pour quelle raison je suis le seul sellier aujourd'hui à prétendre la fabrication et l'utilisation de celle qui positionne le cavalier plus en arrière. Sauf que tous les ostéos et autres vétos aujourd'hui sont d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ça vient de bien plus loin. Il y avait un maître qui s'appelait le général Lotte, qui, lui, avait déjà expliqué que deux tiers du poids sur une selle, quand on se positionne normalement sans selle sur un cheval, on met deux tiers du poids du cavalier sur l'avant-main, un tiers sur l'arrière-main. Donc on a tout intérêt à rétablir cet équilibre. Mais le général Lhote, il était au 19e siècle. Entre-temps, le sport équestre est arrivé, le sport notamment de saut d'obstacle, qui a été quand même ce qui a fait moderniser l'équitation. Et là, pour quelle raison on a, au contraire, chargé l'avant-main du cheval. Si bien que j'ai rencontré, tout au long de ma carrière, des entraîneurs, notamment, je pense au chevalier d'Orgex, qui m'a dit textuellement, c'est toi qui as raison. Pourquoi aujourd'hui je suis le seul? Il faut demander aux autres. Hein. Pour quelles raisons ils n'y viennent pas?
Est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être eu quelques problèmes dans la conservation du patrimoine équestre, enfin, ou en tout cas du savoir-faire ou de la connaissance de l'animal?
Moi, je pense qu'on est dans un milieu extrêmement traditionnaliste. Les selliers aujourd'hui qui sont tous, enfin il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus gros que nous, qui font jusqu'à 3 000, 4 000 selles par an, ces gens-là, ils ont des gabarits, ils ont des arçons. D'abord, ils ne fabriquent pas leurs arçons, ils les achètent, ils achètent ça chez un arçonnier. L'arçonnier, lui, fabrique pour tout le monde les mêmes arçons. Donc, il positionne tout le monde de la même manière. Pour arriver à modifier ça, il faut fabriquer soi-même ses arçons, ou en tout cas les induire la fabrication.
Vous nous avez parlé tout à l'heure de l'intégration des matériaux composites dans la fabrication. Qu'est-ce qu'amène ce type de nouveaux matériaux par rapport au bois et au ferraillage traditionnel?
Alors ça amène d'une part la légèreté, d'autre part la résistance, la souplesse, l'adaptabilité. Mais je ne vous dirai pas aujourd'hui parce que ça serait trop long, les galères que ça a été pour arriver à obtenir des arçons qui correspondent à ce que je voulais. C'est extrêmement compliqué parce que d'abord, personne ne sait comment ça se fait un arçon, à part les arçonniers bois. Donc dès que vous changez de matériau, il faut essayer d'expliquer aux gens ce que vous voulez et ce que vous voulez changer. Puisque là, on a véritablement changé beaucoup de choses dans l'arçon. Et aujourd'hui, c'est un véritable... Pour moi, c'est une révélation, c'est que on est en train de travailler encore sur cet arçon-là avec un nouveau fabricant qui, lui, a un robot et qui va me fabriquer les arçons avec son robot, c'est-à-dire qu'ils seront au millimètre près, à la taille, à la souplesse et à tous les avantages de ce matériau de composite.
Dans votre quête de la selle idéale, vous avez été amené à faire plusieurs voyages d'études. Alors je sais que vous êtes allé au Turkménistan. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher de précis là-bas?
En fait, je ne suis pas allé pour chercher quelque chose. J'étais simplement invité à un salon par le dictateur du Turkménistan. Bon, il fallait quand même y aller, il fallait voir ce qui se passait, mais véritablement, en dehors du fait que c'est le pays d'une race de chevaux qui est la Kalteke, c'est vraiment un pays de cavaliers ancestraux, quoi. Ils ont alors pas du tout évolué et on n'a pas grand-chose à prendre de quoi, notamment dans le matériel.
Alors, dans ce que vous proposez au public aujourd'hui, il y a toute une gamme de selles pour l'extérieur, pour l'endurance, pour le dressage, pour l'obstacle aussi. Il y a également des accessoires autour de la sellerie, les étrivières, étriers, les brides, etc. Est-ce que vous êtes là à l'ensemble d'une gamme ou est-ce que vous avez des projets pour des choses que vous souhaiteriez développer pour l'avenir?
Ah non, on n'a pas du tout abouti, hein, et on est encore en pleine recherche. Et c'est grâce à ça que je suis encore, malgré mon grand âge, dans la société, en train d'essayer de mettre au point d'autres produits. Là, on est en train de quasiment finir, notamment des mini-chaps, pour, là, c'est pour, plutôt pour le cavalier, mais ce dont je vous parlais précédemment, qui est la recherche de l'arçon, là, on est vraiment sur, encore, on est dans la découverte, hein. On va utiliser certainement avec l'époxy, avec les résines actuelles, on va utiliser des matériaux plus traditionnels, comme le lin, par exemple, le chanvre, etc., qui seront biodégradables et ainsi de suite. Voilà, donc là, je vous dis que je ne suis pas encore parti. Hein.
Vous exportez vos productions dans le monde entier, mais alors il y a quand même un plus pour les clients qui viennent vous rendre visite ici au Mas de Vinaigre, parce que c'est la possibilité d'essayer les produits, et puis le conseil que vous pouvez leur apporter, un conseil technique, et évidemment, un conseil même en matière d'entretien. Comment ça se passe, ça?
Évidemment, on préfère voir les gens ici, mais c'est difficile de venir de l'autre bout du monde au Mas de Vinaigre. Mais enfin, encore que la semaine dernière, on avait 4 Chinois qui sont venus ici acheter des sels. Bien sûr, pour nous, c'est beaucoup plus confortable d'avoir et le cavalier et le cheval, parce qu'à ce moment-là, on prend des mesures extrêmement précises. Sinon, on travaille beaucoup sur photos par Internet. Avec des mesures aussi qu'on demande, et on arrive très bien à travailler par correspondance, hein. Et heureusement pour nous, puisque effectivement, cette année, on doit faire, je crois que c'est 30% d'export, sans vraiment l'avoir cherché. On n'est pas dans l'exportation systématique, mais c'est plus, on répond à la demande, hein, de ce côté-là. Alors, à part peut-être dans des pays comme les pays du Golfe, où on va un peu plus souvent, parce que là, il y a une vraie clientèle, on va dire, entre guillemets, avec beaucoup de chevaux réunis sur un secteur relativement réduit et avec beaucoup d'argent, qui n'est pas à négliger quand même.
Et les cavaliers à Véronée, ils viennent vous voir quand même?
Alors, les cavaliers, on a quelques cavaliers à Véronée qui viennent nous voir, mais heureusement qu'on va au-delà. Parce que, bon, d'abord, c'est pas véritablement un pays de cheval, hein, l'Aveyron. Et puis, une prophète dans son pays, on le sait bien.
Merci beaucoup, Gaston Mercier. C'était un entretien avec Gaston Mercier, concepteur et fabricant de selles pour les chevaux, installé à Saint-Léon-du-Lévézou. Un grand merci à lui pour cet entretien, ainsi qu'à son fils, Manuel Mercier, pour l'accueil, la visite de l'atelier de fabrication et des écuries. Interview, montage et mixage Nicolas Vorel, une coproduction Radio Larzac, Radio Sainte-Afrique et Parc Naturel Régional des Grands Causses.
Along about 18 and 25, I left Tennessee very much alive. I never would have got through the Arkansas mud if I hadn't been riding on the Tennessee stud. I had some trouble with my sweetheart's paw. One of her brothers was a bad outlaw. I sent her a letter by my Uncle Fudd, and I rode away on the Tennessee stud. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood, and there never was a horse like the Tennessee stud. One day I was riding in a beautiful land, I ran smack into an Indian band. They jumped their nags with a hoop and a yell, and away we went like a bat out of well. I circled their camp for a time or two, just to show what a Tennessee horse can do. The redskin boys couldn't get my blood, cause I was a-riding on the Tennessee stud. Drifted on down into no man's land, crossed a river called the Rio Grande. I raced my horse with a Spaniard's bow, till I got me a skin full of silver and gold. Me and a gambler, we couldn't agree, we got in a fight over Tennessee. We jerked our guns, he fell with a thud, and I got away on the Tennessee stud. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood, and there never was a horse like the Tennessee stud. Well, I got as lonesome as a man can be, a dreaming of a girl in Tennessee.
The Tennessee stud's green eyes turned blue, 'cause he was a-dreamin' of a sweetheart too. We loped right on across Arkansas, I whooped her brother and I whooped her paw. I found that girl with the golden hair, and she was a-ridin' on a Tennessee mare. Stirrup to stirrup and side by side, we crossed the mountains and the valleys wide. We came to Big Muddy and we forded the flood on the Tennessee mare and the Tennessee stud. Pretty little baby on the cabin floor, a little horse colt laying round the door. I love the girl with the golden hair, and the Tennessee stud loves the Tennessee mare. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood, and there never was a horse like the Tennessee stud.